Puis, la dernière question, c'était par rapport aux gens, Apocalypse 17, 14, qui mentionnait les appelés, les élus et les fidèles. Mais là, on se demandait si on avait lu dans le texte grec, peut-être que le sens des mots, de ces mots-là, ça a un sens différent, ou bien ces gens-là,
Ne compliquez pas la lecture de la parole. Il n'est pas question du grec, il n'est pas question de l'hébreu. Le Seigneur a donné une parole que vous pouvez comprendre. Et les traductions, à peu près, sont fidèles. Mais les appelés, oui ou non, est-ce que vous avez été appelés? On est appelé. Est-ce que vous avez répondu à cet appel?
Oui.
Alors, si vous avez répondu à cet appel, qu'est-ce que vous apprenez? Vous êtes élu. C'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes élu. Mais alors, comme élu? Élu de qui? Élu de Dieu. Quel caractère devons-nous avoir? Le caractère de Dieu. Et puis, comme on marche sur cette terre, on doit encore avoir un caractère jusqu'à ce qu'il nous prenne d'être fidèles. Et c'est ça qui est merveilleux. Appelé, vous avez répondu. Ceux qu'il a appelés, lisons-nous dans Romains, il les a aussi justifiés. Ce qu'il vous faut, mes amis. Et si votre difficulté ce matin, vous l'avez ressentie, c'est que vous ne connaissez pas assez la parole. Vous lisez vos petites portions, peut-être quotidiennes, c'est bien, c'est dévotionnel, ça vous aide, mais vous devez lire la parole depuis la première page à la dernière. Ceux qui ne lisent pas la parole ainsi, ils ne peuvent jamais voir cette unité du message. Et puis ils s'arrêtent sur un texte, et puis ils essayent d'échafauder toute espèce d'idée. Ou alors il voit tout de suite une contradiction. Et dites-vous toujours que Jésus a dit « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages, même ceux qui se glorifient toujours avec le texte grec, avec le texte hébreu, etc., alors qu'ils ne sont pas capables même de lire dans la Bible hébraïque. Mais alors on a des dictionnaires, etc. Puis alors on montre qu'on a de la connaissance. C'est pas ça qu'il faut. Quand vous avez une difficulté, mettez-vous en prière. Dites au Seigneur, donne-moi de ne pas t'attribuer quelque chose de faux. Ou de rendre Dieu responsable de quelque chose. Nous sommes des salauds. Vous direz que je suis trucudant. Hein? Mais vis-à-vis de Dieu, nous sommes des salauds. Parce que le Seigneur a porté notre boue. Et puis nous voulons toujours l'accuser. Nous voulons toujours mettre en doute sa bonté, sa miséricorde, sa justice. Ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi justifiés. Parce que nous étions des coupables. Il ne nous a pas demandé de nous justifier par des œuvres. Nous étions incapables. C'est lui qui nous a justifiés. Et comment nous a-t-il justifiés? Par la croix, en prenant à son compte. Est-ce que vous l'avez vu dans le chapitre 69 des psaumes? Ou bien est-ce que vous avez voulu seulement voir les souffrances de David? Ce que vous deviez voir dans les psaumes, et David lui-même l'a souligné, c'est les souffrances du Seigneur. Et quand on voit comment il s'est identifié à nous, bien écoutez, on ne peut plus accuser Dieu. Dieu est juste en justifiant ceux qui ont la foi en Jésus. Mais il sera juste aussi en condamnant ceux qui auront méprisé sa grâce, qui auront foulé au pied le Fils de Dieu, et qui auront résister au Saint-Esprit, à l'Esprit de sa grâce. Croyez-le. Mais n'accusez plus Dieu. Vous avez une épreuve, alors pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Dites-vous, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, voilà ce que dit la parole, alors j'en reste là. Je ne comprends pas. Nous n'avons pas besoin de comprendre tout. Vous ne dites pas toujours le pourquoi de certaines décisions que vous prenez pour vos enfants, ils ne seraient pas capables de comprendre, mais après vous remercieront de leur avoir peut-être dit non sur un point. Parce que j'ai entendu, j'ai eu 5 enfants, ben j'ai entendu, mais tu étais mon père, tu pouvais me le dire. Moi je n'étais qu'un enfant, je voulais faire ma volonté, mais puisque tu étais mon père, tu pouvais m'avertir. Mais il faut savoir résister même à nos enfants. Puis alors évidemment, quand papa résiste, on va vers maman, puis on essaye d'avoir maman. Puis maman vient trouver papa, puis lui dit, oh écoute, tu pourrais le laisser quand même. Et quand vous dites non et non, et puis que vous expliquez peut-être à votre femme pourquoi vous ne voulez pas, eh bien évidemment, il se fâche le garçon. Je l'ai vécu ça. Puis il est parti en me disant, eh bien puisque tu ne me permets pas de prendre l'auto pour aller passer mes examens, je raterai mes examens. Tout ce que je pouvais lui dire, c'est imbécile. C'est français. Faut pas avoir peur de son enfant. Son fils, il était furieux. Il est parti en disant qu'il allait rater ses examens. Puis après, donc, il a téléphoné qu'il avait réussi. Parce que même en voulant rater ses examens, Dieu n'a pas permis. Et alors, quand j'ai su cela, j'étais acheté quelque chose de plus pour le souper, parce que ma femme voulait faire un ensevelissement de tous les restes, comme d'habitude. Et je l'ai quand même marqué que j'étais content. Et le garçon, quand il revient, vous savez ce qu'il me dit? Papa, tu avais raison, je te respecte. Mais si tu m'avais laissé, je te respecterais pas. C'est terrible, les enfants. Mais c'était une décision d'amour. Les professeurs, à ce moment-là, allaient en mobilette donner leur leçon. Puis mon fils, il voulait prendre l'auto du refuge, c'était l'œuvre de Dieu, pour aller se pavaner là-bas, et puis après sortir avec les copains. Non. Nous devons savoir dire non. Parce que nous aimons nos enfants. Ah, mais je ne veux pas m'écarter là. Mais n'attribuez jamais quelque chose d'injuste à Dieu. Dieu ne peut qu'être juste. C'est moi qui ne comprends pas. Quand l'autre jour, je vous ai dit que cet homme m'avait dit, moi je trouve que Satan a eu le dessus sur Dieu, hein, et je suis furieux contre Dieu. Ben oui, je me répète, hein, mais je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez rencontrer à la fin de votre vie? C'est Dieu, c'est pas Satan. Alors soyez réconciliés avec Dieu. Mais soyez-le maintenant. Vous avez peu de temps pour être réconcilié avec Dieu. Nous ne savons pas quand nous pouvons être effacés de ce livre si nous résistons au Seigneur. Et alors, il paraît que vous avez été troublé parce que aussi j'ai dit que le salut était une assurance morale et non pas mathématique chez les jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance mathématique? Je vous ai donné l'exemple 2 × 2. On casse, ça on est sûr. Hein. Mais dans la parole, quand on a reçu le Seigneur, qu'est-ce qui suit la réception du Seigneur? C'est pas parce que vous avez mis votre signature, c'est pas parce que vous avez pris dans un moment d'émotion votre décision pour Christ que vous êtes sauvé. Certes, il faut avoir pris votre décision pour Christ. Mais si vous l'avez pris, et que c'est certain, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui vient habiter en vous? C'est le Saint-Esprit, et qui fait habiter le Christ en vous. vous êtes habité par quelqu'un, vous n'avez plus le Christ à côté de vous, vous avez le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mais est-ce que c'est fini là? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si c'était déjà fait. Mais pourtant, on n'est pas encore dans les corps glorieux. Mais nous avons l'assurance d'être glorifiés par l'œuvre de la croix. C'est total l'œuvre de la croix. Et nous n'avons pas à mettre cela en doute, quelle que soit notre misère. Mais, si vraiment on a affaire avec Dieu, qu'est-ce qui nous est demandé? C'est d'être, le dernier mot, fidèle. Et cette fidélité, eh bien, se manifeste par une obéissance à la parole. On ne fait plus ce qu'on faisait autrefois, on va être fidèle, on aura de l'opposition, mais cette fidélité, elle doit aller jusqu'où? Jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pourquoi il y aura, après l'enlèvement de l'Église, ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile auront la possibilité de l'entendre. Qui est-ce qui évangélisera le monde après l'enlèvement de l'Église? C'est Israël. Dieu va réveiller en Israël des hommes qui ne sont pas compromis dans toutes les iniquités du christianisme. Ce seront des hommes nouveaux, parce que nous, nous sommes compromis par les iniquités du christianisme, même si nous ne les avons pas commis nous-mêmes. Mais qui est-ce qui a fait l'Inquisition? C'est l'Église. Qui est-ce qui a fait... Comment?
Les croisades.
Vis-à-vis des musulmans. C'est quoi encore? C'est l'Église. Ce sont les chrétiens, les soi-disant chrétiens, pour aller défendre quoi? Un tombeau vide. Alors nous les avons massacrés. On parle des massacres maintenant des islamistes, mais on les a massacrés avant. De sorte que c'est kif-kif bourricot. Attention. Ne nous jugeons pas les uns les autres, mais donnons toute gloire au Seigneur. Être fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Alors vous êtes sûr de ne pas être effacé du livre de vie. Mais nous sommes toujours et quotidiennement en éveil. C'est cela le salut. C'est pas quelque chose, c'est tout fait à la croix. Je sais que tout est accompli. Dieu ne revient pas sur cette décision. De sorte que j'ai une assurance complète, mais une assurance complète dans un chemin. Si je ne marche pas dans le chemin du Seigneur, si je me trompe de voie, de route, est-ce que j'arriverai à destination? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? La perdition. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une assurance mathématique. C'est une assurance morale. Dans la communion avec le Seigneur, on reçoit le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, vous ne le mettez pas en doute. On va prendre maintenant un autre groupe, le 2.
Bon, alors au point de vue des noms, quand le nom des sauvés était écrit dans le livre de l'Italio, eh bien il y a Romains 8, 29 qui dit « dès la fondation du monde », ainsi qu'Apocalypse 13, 8, mais Éphésiens 1, 4 dit « avant ». Mais ça ne nous a pas beaucoup dérangé. Mmh. Une sœur a posé cette question, y a-t-il deux livres de vie? Un livre de vie, puis le livre de vie de l'agneau. Moi, je pense personnellement qu'il n'y en a qu'un, le livre de vie de l'agneau.
Il y en a qu'un, mais Dieu sait.
Bon, on a sa réponse. Bon, et un croyant peut-il être sûr de son salut aujourd'hui? Ben, nous avons vu que oui, que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons vu aussi dans Romains 8, Romains 8, 13, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis également que personne ne nous ravira notre salut, parce que dans Romains aussi, Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu, qui est celui qui justifie, qui donc condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et l'interpelle pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur.
Merci.
Et c'était le chapitre-là, entre parenthèses, c'est le chapitre de ma conversion. Je peux dire que c'est vrai. On peut être tenté, on peut avoir des gens qui nous pressent ou d'autres personnes, mais que quand on est dans la main de Dieu, il nous garde.
Absolument. Merci. Numéro 8.
Bonjour. Alors, la première question. Quand le nom des sauvés a été écrit dans le livre de Gilles Lagnon, nous avons constaté comme tous que pour ce qui est de l'écriture, c'était dès la fondation du monde, mais dans Éphésiens 1 et 4, on voit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Il y a des gens qui nous ont fait remarquer que on discutait de livres et de ce qui était écrit, mais qu'il y avait. Notre salut est basé sur l'œuvre accomplie à la croix.
Oui.
Et que c'est en Christ que nous sommes sauvés. Et c'est lorsque l'on accepte Christ vraiment que l'on est sauvé. Alors c'est ce que l'on a compris, c'est que avant la fondation du monde ou à la fondation du monde ou autrement, nous sommes sauvés, c'est pour l'éternité. Nous avons vu cela. En particulier dans les versets de Éphésiens. Peut-être qu'on pourrait aller tout de suite à Éphésiens parce que, au sujet de la sécurité du salut, on aimerait aller, nous croyons évidemment, nous devons contribuer à la deuxième question. En lui, le verset 13, je lis Éphésiens 1, le verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Apparemment, le sceau du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'assez solide, lequel est un gage de notre héritage. Alors, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous garantit que nous allons avoir l'héritage qui nous a été promis par l'Évangile.
Absolument.
Alors, c'est ce qui a été souligné. Nous avons, bien sûr, aussi souligné le verset de Romains 8, 28 à 36. Je crois que notre sœur vient de lire. Merveilleux verset qui rassure, je pense, tous les chrétiens. C'est fait dans une forme absolument lyrique et tous nous sommes appuyés à un moment ou à l'autre sur ce verset et sur l'amour de Christ. Et ce qui est la réponse la plus importante, semble-t-il, pour nous, c'est qu'on voit partout dans la parole de Dieu, en Christ, nous n'avons de droit, si je peux le permettre, d'une déformation. Que par la personne de Christ, si on devait perdre quoi que ce soit, c'est qu'il y a une condamnation du Père pour l'œuvre de Christ.
Pour l'œuvre de Christ.
Qui est absolument impossible. Et c'est ça qui garantit notre salut. c'est que ce que nous détenons, c'est en Christ que nous détenons. Et c'est ça que nous avons compris. Nous avons cité également dans Acte 4, 12, le verset. Nous avons cité également Jean qui nous dit que on n'est plutôt qu'à aucun autre nom que celui de Jésus. Enfin, et dans Jean 10, 28 et 29, encore une fois, mais celui-là,
Et quand tu lis dans le verset 13 des Éphésiens, 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est comme ça que ça commence, on entend la parole de la vérité, et qu'est-ce que c'est cette parole? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, ça a été accompli, lequel est un gage de notre héritage. On a le gage déjà, alors. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. C'est ça qui est formidable. Dieu s'est acquis par qui? Par Jésus-Christ. L'agneau qui était préconnu dès avant la fondation du monde pour être manifesté au temps propre. Alors, on a une assurance pour célébrer sa gloire. Alors, célébrons déjà sa gloire, mais ne critiquons pas Dieu pour ses voies. Nous ne les comprenons pas, alors nous adorons. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui nous pousse à adorer. Et non pas à blasphémer. Comprenons le bien.
Je voulais souligner ce que vous disiez un peu plus tôt. Lorsque l'on est vraiment sauvé, on est scellé par le Saint-Esprit et ou bien on est sauvé ou bien on n'est pas sauvé. Mais parfois, il y a des gens qui ne le sont pas et donnent l'impression de l'être parce qu'ils vont suivre un chemin identique à ceux qui les ont sauvés. C'est un peu comme la parabole du blé et de l'ivraie dans la parole de Dieu. C'est dans nos églises que l'on retrouve l'ivraie et que l'on retrouve le blé. Et c'est la même chose, sauf que comme Jean le dit dans son épître, le deuxième chapitre, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, et cela était arrivé en fait qu'ils soient manifestés que tous ne sont pas des nôtres.
Ça, c'est vrai.
Alors, c'est une question, quand vous dites assurance morale, dans mon esprit, dans mon cœur, c'est aussi certain qu'une assurance mathématique, parce que quand j'ai l'assurance morale basée sur Dieu, je suis certain autant que la mathématique.
Non, t'es d'accord. Ce que je voulais dire, c'est pas, on n'est pas sauvé comme 2 × 2 = 4, n'est-ce pas? Parce que ça serait extérieur.
Bon, la première question, on le sait, c'est dès la fondation du monde, on n'y aura pas d'habitude. La deuxième question, un croyant peut-il être sûr de son salut aujourd'hui? Ça, je pense que cette question-là nous accuse vraiment au pied du mur. Hein. C'est de notre foi qu'il s'agit. Hein.
Oui.
Fait que je pense que c'est en acceptant simplement son sang versé pour nos péchés, en ayant l'humilité de se reconnaître comme un pécheur. C'est en adhérant à son témoignage, des visiteurs, tout ça. Un autre point qui va pas sans les autres, c'est de renoncer totalement aux choses de l'homme, les choses de la terre, comme on a vu dans les autres chapitres. J'aimerais ajouter un témoignage d'une des sœurs de notre groupe qui est pas mal spontané. Vous trouvez ça cute? Elle dit les apôtres, elle dit, ils l'ont vu le Seigneur, eux autres. Elle dit, ben moi, j'ai hâte de le voir. Je sais pas si ça peut se lever, là. Pour finir, j'aimerais remercier le Seigneur pour m'avoir emmené à Jeanne. Ça connaît Jeanne qui
vient. Vous voyez, le Seigneur emploie les uns et les autres. Et quand on sera au ciel, on en apprendra des nouvelles. Et on sera émerveillés.
Qu'on parle de la Bible. C'est quoi
La couronne de vie. La couronne de gloire. Attendez. Alors, qu'est-ce qui vous attend? La couronne de justice. Puis il y a la couronne de vie, dont on a cité aussi Jacques 1:12. Heureux l'homme qui endure la tentation, c'est-à-dire l'épreuve. Le Seigneur, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça, c'est la couronne de vie. Et puis, il y a la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4, réservé aux anciens, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Puis alors on peut citer aussi, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que c'est ça qu'on peut perdre. On ne perd pas son salut, mais on peut perdre sa couronne. Alors, réveillons-nous, reprenons-nous. Nous ne voulons pas rester dans le relâchement. Et toutes ces couronnes, elles doivent être jetées aux pieds de Christ. Les 24 anciens dans l'Apocalypse se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne en disant « Tu es digne ». Voilà. Merci Madeleine. Je crois que nous devons prendre ce qui est positif dans tout cela et ne pas opposer trois listes, parce qu'on ne s'en sort pas. Il y a toujours certaines difficultés, mais il y a beaucoup de textes qui nous montrent que personne n'a été prédestiné à la perdition. Et justement, de cette prédestination, le diable on a fait un de ces chevals de bataille pour troubler les uns. Et c'est pourquoi ce que nous disions hier, nous le répétons, est-ce que tu peux dire que tu n'es pas prédestiné? Est-ce que tu es allé à Jésus et que Jésus t'a repoussé? Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. De ça, vous pouvez être sûr. Mais est-ce que tu es déjà allé auprès du Seigneur et qu'il t'a repoussé les gens?
C'est-à-dire, je veux monter son amour dans tout ce qu'il a compris, dans ta création.
Merci. Bon, vous avez encore à demander au Seigneur de vous éclairer sur ces points. Numéro 3. Les deux témoins.
Non, les deux, c'est ça. Il y a déjà beaucoup de choses qui avaient été dites par rapport à la question 1. Quand le nom des sauvés a-t-il été écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'était dès la fondation du monde, c'était pour tout le groupe, tout le monde était d'accord. Pour la question 2, incroyable, c'est ce de son salut aujourd'hui, elle avait répondu oui. Parce que dans Jean 5, 24, c'est dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, je ne viens pas en jugement.
Il ne vient pas en jugement. Pourquoi? Parce que Jésus a été jugé pour nous. Merci. C'est quand même encourageant d'avoir des jeunes, hein? Numéro 1.
En lisant la question 2, un croyant peut-il être sûr de son salut aujourd'hui? Personnellement, je me suis aperçu que des fois je lisais. Alors, ça m'a repris devant le Seigneur en ce sens qu'on lit mal la parole de Dieu, tout court. Et une simple question peut être piégée à quelque part. C'est aujourd'hui qu'il faut savoir si j'ai l'assurance de mon salut. Alors, on a fait un consensus que les élus peuvent avoir l'assurance de leur salut aujourd'hui parce qu'on fait partie du plan parfait de Dieu. Mais le point central, c'est le Christ qui est fidèle. Il a dit ne peut changer, il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais chaque jour, on a à faire notre engagement qui a lieu aujourd'hui. On a à s'occuper aujourd'hui de notre sauveur et pas seulement de l'assurance du
Seigneur. Très bien. Alors, on a vu tous les groupes. Alors, je dirais seulement une phrase pour conclure. Il faut que je sois maintenant ce que je voudrais être quand le Seigneur Jésus viendra. Voilà ce que vous devez retenir. Il faut que vous soyez maintenant, puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure, hein, ce que vous voudriez être quand le Seigneur viendra. Et c'est pourquoi je souligne qu'il reste un court instant pour nous mettre en règle. Parce qu'il y a certainement des choses qui doivent changer encore dans nos vies. Et je suis heureux que vous ayez souligné que c'est la personne de Christ. Et vous voyez que vous vous rejoignez quand même. Tout est dans la personne de Christ. Il a dit, tout est accompli quant à notre salut, il n'y a rien à ajouter. Mais un jour, il dira, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, quand est introduit l'état éternel, qu'est-ce qu'il dira qui correspond à tout est accompli? Mais nous sommes sauvés en espérance, comprenez-vous? Nous sommes sauvés en espérance. Le plein salut, quand est-ce que nous l'aurons? Quand il vient, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, le Seigneur dira, c'est fait. N'est-ce pas? On est entre le tout est accompli et le c'est fait. Mais pour cheminer, on chemine dans la foi. La foi en quoi? Dans la parole du Seigneur. Que nous ne mettons pas en doute. Mais c'est une foi qui se renouvelle de jour en jour. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre foi grandisse? Des épreuves. Parce que sans ça, elle ne grandit pas. On s'habitue, etc. N'est-ce pas? Pour que la foi grandisse, il faut des épreuves. Si cela est nécessaire, dit l'apôtre. Alors, nous voilà réconciliés avec tout ce qui peut nous arriver. Vous ne savez pas que c'est merveilleux? Alors, nous aurons l'occasion de dire un dernier mot cet après-midi. Je donne la parole à Josaphat.